pipi dans un coin.
88 miles à l'heure.
I'll be back.
Bienvenue, bonjour à tous, bienvenue dans Ciné 7, c'est le deuxième épisode déjà de Ciné 7. On se retrouve cette semaine avec la même équipe, hein, tant qu'à faire. C'est toujours Marvin et Jade et moi-même Kellyanne.
Salut à tous.
Salut.
Et donc, deuxième épisode, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait le deuxième épisode? On change de thème, parce que chaque épisode son thème. Et je vais laisser la parole à Jade pour nous présenter le thème d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, on s'attaque à un monstre du cinéma qui n'est autre que Quentin Tarantino.
Quentin Tarantino. Alors, le but d'aujourd'hui, c'est donc de survoler les 10 films de sa filmographie à travers des musiques emblématiques, parce que vous connaissez le principe de l'émission, vous étiez là la semaine dernière. Le but de Ciné 7, c'est de faire comme un DJ set, mais avec des musiques de films, c'est-à-dire pendant une heure, uniquement des musiques de films, de la détente, entre amateurs de cinéma. On va discuter, on va donner notre avis, on va donner des anecdotes. Et donc aujourd'hui sur les musiques et les films de Quentin Tarantino. Et donc pour commencer, on va commencer avec une musique d'ouverture. Vous allez voir le titre du film et dans la chanson. Et puis je vous laisse découvrir, on en reparle tout de suite après. C'était Django de Luis Bacalov et Rocky Robert, la musique d'ouverture de Django Unchained, le film sorti en 2012 par Quentin Tarantino. Le premier film western de Quentin Tarantino qui, pour moi, est le meilleur, celui que j'ai vraiment préféré de toute sa filmographie, alors même s'il m'en manque un ou deux. Mais c'est, à mon goût, c'est celui que j'ai préféré, celui qui m'a fait le plus vibrer. Autant par la photographie que par la musique et par les acteurs. Je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous?
Alors moi, pour moi, c'est un très bon film de Quentin Tarantino, peut-être pas mon meilleur. On a des très bons acteurs dedans, donc Jamie Foxx, DiCaprio, Christopher Waltz et Samuel L. Jackson, pour citer, on va dire, les principaux. On a une très belle photographie, donc avec surtout la scène d'ouverture, du coup, avec la musique, où on va avoir des décors dans le désert, et qui est assez impressionnant. C'est son premier film en tant que western spaghetti, on va dire. Derrière, il a enchaîné avec Lewis Salopard, qui pour moi est un peu inférieur. Je sais pas ce que t'en penses, Kélian.
Oui, carrément. Je trouve que Les 8 salopards, il est clairement plus long. En fait, Django est très rythmé. Il y a une vraie histoire qui se suit. Les 8 salopards, c'est, par comparaison, c'est un huis clos. C'est bien plus lent. On parle souvent, les détracteurs disent souvent que Tarantino, c'est des dialogues qui ne s'en finissent pas et un film qui se termine en bain de sang. Ce qui, d'un autre côté, est pas forcément tout à fait, ils n'ont pas forcément tout à fait tort. Mais j'ai trouvé que Les 8 salopards étaient, même s'il y a un casting qui est très intéressant, était très très lent, très très long.
Je pense que c'était peut-être plus un exercice de style par rapport à Django, qui était vraiment l'occasion pour lui de se démarquer dans un autre genre. Et à côté, lui, Salopard, c'est vraiment plus pour se faire plaisir, pour s'essayer au genre et pour vraiment pousser jusqu'au bout le western.
Après, en soi, tu disais que Les 8 Salopards, il était assez long comme film, mais Django, c'est quand même 2h45 derrière. Donc ouais, il est bien rythmé. Par contre, moi je trouve que si on prend le dernier tiers du film, donc du coup avec le dénouement, ça traîne en longueur.
Oui, c'est vrai que les dernières scènes, moi effectivement des fois on se dit qu'il y en a une ou deux qui pourraient être coupées et ça irait mieux, on gagnerait un quart d'heure, 20 minutes du film. Et c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui rabâchent un peu tout le temps les mêmes choses et qui veulent faire du Tarantino comme le disent les détracteurs avec une effusion de sang.
Ah bah de toute façon, la dernière scène c'est du sang quoi. Il y a que ça.
Mais dans Django, il y en a plusieurs dernières scènes avec du sang. Bah de mon avis, mais je trouve que ouais, au niveau de l'histoire et tout, il y a tout un arrière-fond historique aussi qui l'a voulu replacer à l'époque coloniale et surtout à l'époque de l'esclavage. Et il y a toute cette réflexion aussi derrière sur la personnalité, sur des personnages qui sont un peu plus ouverts que d'autres. Et donc c'est assez intéressant, moi, je trouvais. Et
pour moi, on tient la meilleure prestation d'acteur de DiCaprio. L'une des meilleures, en tout cas, même si c'est un second rôle dans ce film-là. Une fois qu'il est arrivé dans le film, pour moi, il cache totalement la vedette à Christopher Waltz et Jamie Foxx.
Ouais, mais c'est vrai que par contre, il arrive un peu tard dans le film.
Il arrive tard, mais il arrive au bon moment. C'est quand ça s'essouffle un peu.
Ouais, il redonne un second souffle au film, mais c'est vrai qu'il arrive tard. Il faut pas s'attendre à voir son visage très très tôt dans le film et tout de suite. Mais c'est vrai qu'il éclipse un peu. Bah, il reste quand même un peu la tête d'affiche, même si Jamie Foxx a le rôle titre. Il reste la tête d'affiche du casting parce qu'il y a du beau monde. Hein. Il y a quand même Samuel L. Jackson encore derrière, mais DiCaprio reste DiCaprio quand même.
Et par rapport à la musique, vous disiez tout à l'heure une bande-son particulière.
Une bande-son particulière, c'est-à-dire ?
Tu parlais de rap ?
Oui, en fait, la dernière scène, donc du coup avec le bain de sang, on est sur une musique de Tupac. Donc c'est assez marrant pour un western parce que c'est original parce que quand on connaît les westerns, donc avec tout ce qui est Le Bon et la Brute Truand, enfin toute la trilogie de Sergio Leone avec le dollar, on est sur des musiques assez lentes, assez posées. Là, on va être sur un rap qui est du coup intemporel, enfin dans le sens où ce film-là, il se passe à l'époque du Far West et on va avoir une musique qui est d'actualité. Donc d'un côté, ça va toucher les plus jeunes, ça va toucher du coup un public différent que Le Bon, la Brute et le Truand, par exemple.
Ouais, et puis au niveau des musiques, effectivement, tu parlais des musiques un peu plus classiques pour les musiques de western. Ça se rapproche un peu plus de ce qu'on a entendu là, la musique d'ouverture, de la musique titre de Django, qui pour moi pourrait très bien aller dans un classique, Il était une fois dans l'Ouest, ou Le Bon, la Brute et le Truand. Et effectivement, la scène de fin sur un gros rap américain, bah, c'est pas que ça dénote, parce que ça fait du genre. C'est aussi ça, hein, le but de la musique dans le cinéma, c'est d'apporter des émotions. Et donc là, ça apporte une émotion différente d'un vrai western dont on a l'habitude de voir. Et c'est ce qui fait aussi un peu la magie du film et la magie DiCaprio, de Tarantino.
Et puis même au niveau des looks, on a Jamie Foxx qui a des lunettes rondes. Je connais pas trop la mode au western, mais je crois pas qu'on avait des lunettes rondes à cette époque-là.
Ouais, puis le costume intégral bleu aussi.
Oui. Bah ça, c'est une référence à un tableau.
Oui,
c'est
effectivement.
Une référence à un tableau. Je sais pas le nom du tableau, par contre.
Non, mais on pourra peut-être le chercher et vous redire ça. Et puis du coup, on parlait de grandes références en termes de western, en termes de musique. Et donc, on va enchaîner tout de suite avec les 8 salopards, dont on a dit plutôt du mal depuis tout à l'heure. Mais on va enchaîner avec la musique d'ouverture encore des 8 salopards. Et là, c'est pas n'importe qui l'a composé. C'est quand même Ennio Morricone qui vient de décéder il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Mais la musique d'ouverture, c'est Ennio Morricone. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le grand nom de la musique de western et le grand nom de la musique des western spaghetti. C'est lui qui a composé quasiment toutes les musiques de Sergio Leone.
Et qui a eu un Oscar pour cette musique-là.
Et qui a eu un Oscar pour cette musique-là et qui n'en a pas eu qu'un seul. Donc on profite tout de suite de la musique d'ouverture des 8 salopards qui s'appelle La dernière diligence.
Thank you. good brother were fine, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you're put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps try to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. You bet. Across 110th Street, you can find it all in the street. Talk to you about right now. Hey, brother, there's a better way out. Shorting that coke, shooting that dope, man, you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Trick on the street, ooh baby, across 110th Street, you can find it all.
Et donc on a enchaîné avec la musique originale de Jackie Brown faite par Bobby Womack. Et je vais laisser la parole à Jade parce que Jade est un peu notre experte Jackie Brown aujourd'hui.
En fait, je suis la seule à avoir vu le film aujourd'hui, donc c'est un honneur, je m'y colle. Alors Jackie Brown, c'est la première fois que Quentin Tarantino, il adapte un roman à l'écran. Parce qu'à la base, c'est un roman qui s'appelle Punch Créole d'Elmore Leonard. Et en fait, c'est un film qui a pour vocation première de refaire vivre, on va dire, la blaxploitation, comme on dit. Donc c'était un courant du cinéma où on a mis en avant, en fait, un peu pour la première fois, des personnes noires dans des rôles importants au cinéma. Et une des personnes, des personnages de fil, en fait, de ce courant, c'était Pam Grier. Et du coup, c'est le rôle-titre, en fait, de Jackie Brown. Et imaginez un film où l'héroïne principale est non seulement noire, mais en plus une femme. Voilà. C'était un gros truc pour l'époque.
C'est assez avant-gardiste. C'est quelle année ça, Jade, s'il te plaît ?
Alors, Jackie Brown, c'est 1997.
Ouais, c'est quand même assez avant-gardiste pour l'époque, quoi.
Et finalement, quand on regarde, c'est quelque chose qui ne s'est pas énormément fait par la suite.
Donc, ça va être son troisième film, pardon,
ouais.
Je pense.
Oui, ça doit être à peu 97. Près ça. Et il est quand même à la pointe. Hein. C'est quand même un réalisateur qui est à la pointe et qui ose faire des choses.
C'est quelqu'un qui s'est quand même souvent mis en danger dans ses films. Et du coup, Jackie Brown, ça raconte l'histoire d'une hôtesse de l'air qui va essayer de se tirer d'un pétrin, parce qu'elle s'est mise dans de sales draps avec des gangsters. Et du coup, c'est l'histoire du cast de Jackie Brown. Et cette chanson, en fait, elle est particulière, puisque c'est la chanson d'ouverture. on ouvre le film sur un travelling où on voit Jackie Brown qui est donc hôtesse de l'air. On la voit traverser l'aéroport. Et en fait, l'histoire, c'est que c'est une chanson qui parle du fait de se sortir du ghetto et concrètement de se sortir de la merde. Donc voilà, c'est une musique qui annonce la suite du film.
Et donc, son métier lui permet une ascension sociale, c'est ça ?
Non, pas forcément. Son métier, en fait, lui permet surtout d'infiltrer de l'argent, parce qu'elle bosse pour une compagnie aérienne au Mexique. Et du coup, elle récupère de l'argent pour le compte du personnage de Samuel L. Jackson et elle l'infiltre aux États-Unis.
Encore lui, il est un peu de partout dans les films de Tarantino quand même. Hein,
il est un peu de partout et il a quand même du pouvoir décisionnel puisqu'il a un look très particulier dans le film avec des cheveux longs et un petit bouc tressé. Et en fait, c'est lui-même qui a décidé de se donner ce look-là. Donc, on ne peut qu'admirer.
Ouais, mais il décide souvent quand même Samuel L. Jackson. Hein, je ne sais pas si vous savez, par exemple, pour son rôle dans Star Wars,
le sabre violet.
Il a exigé avoir un sabre unique, d'une couleur unique. Et des petits caprices de Star.
C'était pour être différencié sur l'attaque des clones, la bataille de Dionysus. C'était pour avoir un sabre différent des bleus et des verts.
Ouais, mais des petits caprices de Star, on dirait un peu. Hein, je ne sais pas trop.
Ouais, mais écoute, ça marche parce que vraiment, il a le style gangster un peu. Comment dire, un peu hors jeu, quoi, le mec qui est plus trop dans le vent et qui essaye de s'accrocher. Je trouve que ça marche bien avec le bouc tressé. Désolé si vous nous écoutez que vous avez un bouc tressé.
Oui, non, mais c'est vrai. Mais après, oui, ça fait partie du personnage hein, et ça reste un très grand acteur quand même.
Et du coup, film que je conseille vraiment. C'est un film assez long puisqu'il dure 154 minutes. Mais
tu peux nous faire la conversion, s'il te plaît ?
Parce 154.
Que pas très bon en
ah non, j'ai eu une longue journée, je vais vous laisser réfléchir tout seul.
Bon, on va regarder ça comme ça, on verra si c'est un film.
C'est un film très intéressant,
bon film.
J'ai trouvé qu'il n'y avait pas tant de temps mort. C'est quelque chose qu'on reproche souvent à Tarantino parce que autant il sait faire des scènes avec beaucoup d'action, autant des fois il y a des latences et on s'ennuie un peu quoi. Et là finalement, c'est un film qui a un bon rythme du début à la fin et qui est très agréable à regarder.
Ok, bah, il va falloir qu'on rattrape notre retard alors.
Il va falloir.
Tout à fait.
Mais en plus, il était sur Netflix il n'y a pas longtemps, on l'a raté. C'est quand
je
même...
voulais le voir, il était dans ma liste c'est et je me suis dit, putain, ça fait chier.
Tu as raté ta chance.
Ouais, c'est vrai qu'en préparant l'émission, on s'est dit, bon, attends, il faut qu'on retrouve tous les films qu'on n'a pas vus, qu'on essaie de rattraper. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait, finalement. Il n'y en a qu'une dizaine. Enfin, il n'y en a que 10, d'ailleurs, des films de Tarantino.
Et puis c'est des films que, quand même, énormément de personnes ont vus. Quoi.
Ouais, ouais, ça reste des très, très grands classiques. Mais on l'a raté.
Après, il en a fait 10 et il y a eu derrière, il a fait des scénaristes ou co-scénaristes, par exemple Une nuit en enfer, True Romance, ça c'est de Essence City, c'est avec son ami Robert Rodriguez. Mais même si il est pas producteur du film, derrière, il a quand même été, il a eu un pied dedans quoi, il a eu un pied dedans.
Oui, il est pas réalisateur, mais en tant que réalisateur, il a que 10 films à son actif, ce qui est déjà 10 de plus que nous, déjà,
puis,
premièrement.
10 films soignés, on va dire.
C'est 10 films soignés, effectivement. Et des films qui sont quand même plutôt appréciés dans le monde du cinéma. Et en parlant de films très appréciés, moi je trouve que c'est un de ces films titres quoi, hein, que tout le monde connaît. Et la musique est très très connue, la scène est emblématique, vous vous rendrez compte juste en entendant la chanson. Et on en reparle tout de suite après, on se retrouve après, vous êtes bien sur RKS et sur Ciné 7. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est
la vie c'est des hauts faux, d'autres choses you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell.
Et donc c'était Chuck Berry pour You Never Can Tell. Pour ceux qui, on ne sait pas, n'auraient pas remémoré la scène, ne seraient pas souvenus de quel film ou de quelle scène, c'est donc pour le film Pulp Fiction, et c'est la fameuse scène où Travolta danse dans le diner.
Il fait son plus beau twist.
Son plus beau twist, le fameux twist de Travolta qu'on a tous essayé en soirée, à un mariage aussi.
Marvin a essayé il n'y a pas plus tard que 30 secondes.
En vain.
En vain. Bah ouais, la semaine dernière on n'était pas tous Patrick Swayze, cette semaine on n'est pas tous Travolta. Écoutez,
ça va continuer comme ça.
Ouais, je pense que, je sais pas si on aura une musique où il y a une danse emblématique.
Mais j'étais pas
émission.
Au Matourman non plus, vous inquiétez pas.
Mais c'est vrai que on n'est pas hyper bon danseur, je trouve, pour l'instant. Avec le temps, on devrait s'améliorer. Il y a pas de raison quand même. Mais voilà, donc c'était la scène qui est quand même la scène du film, une des scènes les plus iconiques et les plus emblématiques du film.
Moi, Pulp Fiction, j'adore. C'est le premier film que j'ai vu de Tarantino. Et ça a vraiment été une claque. Mais alors, c'est vrai qu'il y a nombre de personnes à qui j'en ai parlé qui m'ont dit « J'aime pas ce film, il est trop compliqué ». C'est un truc qui revient souvent dans les films de Tarantino parce que c'est vrai qu'il joue avec la chronologie énormément. Il y a toujours des histoires de flashbacks, d'histoires qui commencent, qui se terminent à la fin, de destinées qui s'entrecroisent, d'arc narratif, on comprend rien. Mais alors c'est vrai que moi ce que j'aime, c'est que je sais que je peux lâcher prise, me laisser porter et qu'à la fin j'aurai toutes les réponses dont j'ai besoin.
Et bah clairement, moi ça a vraiment fait l'effet inverse. Moi, Pulp Fiction, ça a aussi été mon premier Tarantino parce que j'en avais déjà entendu parler longtemps et il fallait quand même s'y mettre à un moment. Et effectivement, j'ai pas été peut-être le plus attentif des spectateurs quand j'ai regardé Pulp Fiction. Mais j'ai été
tu
perdu.
Tu joues un jeu dangereux là.
Voilà, c'est ça. J'ai été perdu, j'ai pas réussi à l'apprécier. Et quand je l'ai re-regardé, j'ai un peu plus compris les histoires, un peu plus compris le dénouement. Mais cette histoire de chronologie un peu complexe de plusieurs histoires, j'ai trouvé que. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre le système des chapitres déjà. Et de me rendre compte qu'en fait, chaque chapitre suivait un personnage différent, une histoire différente.
Et que toutes les histoires se recroisent.
Et que toutes se recroisent au climax du film. Et effectivement, c'est pas forcément une mauvaise impression de Tarantino parce que Django a une chronologie qui est plus lisse.
Ouais, il a beaucoup de films comme ça qui fonctionnent de cette façon.
Mais des chronologies complexes, pour moi, surtout sur celui-là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à comprendre et à apprécier le film pour ces raisons-là.
Après, c'est le genre de film, je trouve, qui est vraiment... qui prend en qualité au deuxième, au troisième, au quatrième visionnage. Quand on a les grandes bases de l'intrigue qui sont posées et qu'on a juste à se laisser porter par le film et voir où est-ce qu'il veut nous emmener. Mais c'est vrai que c'est bien de l'avoir vu une première fois pour savoir les intrigues générales, les grandes lignes et pour après pouvoir vraiment profiter et voir les détails.
Ouais. Mais par contre... On parlait tout à l'heure que Tarantino était un cinéaste qui prenait souvent des risques et qui n'hésitait pas à prendre des risques. Et là encore sur ce film-là, il prend des risques parce que c'est un film de gangster, mais un film de gangster un peu particulier, Marvin.
Ouais, là on va avoir un film de gangster qu'on va être beaucoup plus centré sur la vraie vie, dans le sens où, par exemple, des films type Scarface, Les Affranchis, Il était une fois l'Amérique, c'est des films où en fait on va idolâtrer les gangsters. Alors que, en fait, de base, il faut pas idolâtrer des gangsters parce que, ouais, certes, ils ont créé, la plupart, ils ont conçu l'Amérique à leur image. Enfin, l'Amérique sur certaines périodes, c'est grâce aux gangsters, comment c'est foutu, par exemple Miami. Mais là, on va avoir du coup Pulp Fiction, on va avoir quelque chose de totalement différent. Tarantino va nous montrer un aspect plus simple. Donc, par exemple, des dialogues tirés les cheveux où ils vont parler de cheeseburger, de je crois de Big Mac Je sais plus c'est quoi.
Comment est-ce qu'on appelle un Big Mac en France?
Oui, voilà. Et des massages des pieds. Des massages des pieds aussi, je crois.
Ah, les pieds.
Les pieds de Tarantino. C'est un peu un leitmotiv pour
les pieds et les voitures.
C'est vrai que c'est toujours des plans qui reviennent, les coffres de voiture. Bah, je crois dans
Mais pas seulement les coffres, finalement. Même dans la voiture, dans l'habitacle, il aime bien filmer le conducteur, les passagers arrière, faire des petits allers-retours comme ça.
Bien souvent.
Bah, ça doit être un fan de grosses cylindrées, de grosses voitures.
C'est toujours des très belles voitures dans les films.
Toujours des très belles voitures, souvent des vieilles américaines, des vieilles grosses cylindrées américaines.
Après, on sait que c'est un nostalgique. On en parlera plus tard. Mais c'est quelqu'un qui a vécu dans le Hollywood des années 70, si je ne m'abuse.
Ouais, il est né en 67.
Et qui a toujours essayé un peu de faire revivre ça dans ses films.
Mais peut-être qu'il y a aussi une espèce de rêve un peu inavoué, parce qu'il a commencé dans une école d'acting avant d'être réalisateur, et peut-être qu'il avait envie de retrouver cet esprit-là des films et du cinéma des années 70. C'est pour ça que souvent... J'ai l'impression que ces films sont d'une époque un peu plus ancienne. Alors, pas les westerns, parce que les westerns, c'est clairement décalé, mais sur les films qui sont censés se passer dans l'Amérique un peu plus moderne, c'est vrai qu'il y a quelques décennies de décalage avec notre époque actuelle. Après, je ne sais pas si c'est qu'un ressenti personnel, mais je ne sais pas ce que vous en pensez.
Non, c'est vrai qu'on ne sait jamais trop comment se positionner niveau temporalité avec Tarantino. Il y a des films qui remontent à assez longtemps dans le temps, qui sont finalement assez modernes, et des films... très récent, on parlera plus tard de Once Upon a Time in Hollywood, qui est vraiment un flashback dans les années 70. Donc, moi, j'aime bien. Je regarde des films pour voyager et c'est ce qu'il me fait faire, donc c'est parfait.
Mais puis, il peut aussi nous faire voyager pendant très très loin avec les westerns. Mais effectivement, il nous parle aussi d'une Amérique moderne. On parlait tout à l'heure des voitures, de sa passion pour les voitures. Aussi, il a une certaine passion pour le sang, pour comment on appelle ça,
pour le gore, pour le spectacle,
les démembrer, si on peut le dire, sans spoiler le film qui arrive, parce que il y en a un joli démembré.
Je suis surprise que Marvin n'ait pas spoilé Pulp Fiction et la mort la plus célèbre du cinéma.
Je me maintiens.
Il se maintient. Il a un peu appris de ses erreurs de la semaine passée, mais il se maintient parce que effectivement la mort d'un des héros, d'un des personnages du film,
elle arrive déjà assez tôt dans le film.
Et
on parlait des gangsters ordinaires, alors là on fait pas plus ordinaire quoi.
Ouais.
C'est vrai. C'est une mort aux toilettes.
Mais il l'a fait.
Oh putain.
Il l'a fait, mais c'est pas possible. Il peut pas s'en empêcher. C'est n'importe quoi.
Laisse tomber.
Bon, du coup, j'étais en train d'introduire le prochain film, la prochaine musique.
Et quelle est-elle ?
Des belles voitures, un policier dans le coffre, un policier qui finit pas forcément hyper bien. Ça vous parle ou pas ?
Ça nous parle.
Ça vous parle ? Et bah, si ça vous parle, on l'écoute et on en reparle tout de suite après.
Here I am, stuck in the middle with you. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind.
Donc on a enchaîné avec un Pulp Fiction parce que c'est une chanson qui est aussi iconique, qui vient pas forcément du film, mais enfin qui a pas été faite pour le film, pardon, mais parce que c'est une chanson qu'on adore et qu'on aime, ça nous a fait un peu danser, ça nous a fait bien rigoler, donc c'est pour ça. Mais par contre, juste avant, il y avait un Réservoir Dog, parce que c'était le film que j'avais teasé. C'est un huis clos. C'est le premier film de Quentin Tarantino. Pourquoi on n'a pas commencé avec l'émission là-dessus ? Parce que on n'avait pas spécialement envie de faire une chronologie de Quentin Tarantino. C'est un peu barbant. Mais c'est le premier long métrage réalisé par Quentin Tarantino, dans lequel il a un rôle, je trouve, assez important par rapport au caméo qu'il fait dans ses autres films. Et vous verrez, on le voit dès le départ. C'est assez marrant. Mais voilà. Donc c'est un huis clos qui se passe dans un hangar. Et qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Marvin, qui l'a vu comme moi il y a quelques jours ?
Alors, moi, il faut savoir que du coup, quand j'ai commencé à m'intéresser à Quentin Tarantino, ça a été le premier film que j'ai vu de lui. Donc, je me suis dit, allez, son premier film qu'il a sorti, je vais commencer par lui. Alors, au début, moi, je n'avais pas forcément aimé. Je pense que j'étais un peu trop fatigué pour le voir. Et je l'ai revu dernièrement, du coup, pour les besoins de cette critique sur le film. Et en fait, j'ai adoré ce film. C'est souvent considéré comme un des meilleurs avec Pulp Fiction. Et oui, enfin, pour moi, c'est un des meilleurs. Donc oui, forcément, ça peut être barbant pour certaines parce que du coup, on va être sur un huis clos.
Pardon, je rigole, mais je me sens visé là.
Donc ouais, on va être sur un huis clos. Donc du coup, forcément, il n'y aura pas énormément de décors différents. Et par contre, on va être sur un casting assez incroyable. Donc, on va avoir, Quentin Tarantino qui va jouer un rôle, donc le rôle d'un truand. Petit rôle, mais rôle important quand même, comme a dit Kylian. Après, on va avoir donc en principaux acteurs, on va avoir Steve Buscemi qu'on a vu aussi dans Fargo, Tim Ross, Michael Madsen qui joue du coup dans le film le grand frère de Vincent Vega dans Pulp Fiction. Et Edward Bunker principalement comme acteurs principaux qu'on va voir souvent, et Harvey Keitel, pardon, j'ai oublié le plus important, Harvey Keitel.
Ouais, c'est pour ceux qui connaissent pas bien l'histoire, c'est des bandits, des braqueurs,
des truands,
des braqueurs de banque auxquels le coup a pas hyper bien fonctionné. C'est le début du film, on s'en rend compte assez vite. Et le film va un peu revenir en arrière au fur et à mesure.
Pareil, un grand coup de flashback.
Voilà, moi ce que j'aime bien du point de ce film, c'est que derrière, on va en fait, on va pas suivre une histoire linéaire. Donc du coup, on va directement comprendre que le casse, ça a raté, et on va comprendre comment ça a raté. On va tout savoir.
Mais oui, effectivement. En fait, par rapport à Pulp Fiction, où il y a une chronologie qui est un peu pas hasardeuse, mais saccadée. Pulp Fiction, en fait, on part de plusieurs points de départ pour arriver à un seul point d'arrivée.
Quasiment tous les personnages se croisent à un moment ou à un autre, il me semble.
Exactement, c'est ça. Par contre, Reservoir Dogs, tous les personnages ne sont pas forcément là au départ. On sait où est-ce qu'on va arriver, et on va revenir en arrière pour comprendre comment est-ce qu'on est arrivé là. Mais je trouve que c'est assez limpide par rapport à Pulp Fiction, où des fois on passe un peu du coq à l'âne en changeant de chapitre, comme si on avait fait un bond dans un livre. Alors que là, c'est fluide, c'est linéaire.
Après,
chacun raconte
une
histoire.
C'est peut-être plus simple du fait qu'on suit les histoires des personnages dans les flashbacks plutôt que des moments dans le temps. Du coup, c'est peut-être plus simple de se dire tel personnage part de là, va là, etc. pour tous les personnages.
Et puis d'un autre côté, moi, c'est mon avis personnel. Dans Reservoir Dogs, comme on sait où est-ce qu'on va, on sait un peu qui est qui dès le départ. Alors que dans Pulp Fiction, des fois, on change de chapitre. On arrive sur un nouveau personnage, donc c'est pas, il sort de ni d'Ève ni d'Adam, et à un moment il arrive avec ceux qu'on a vus plus tôt dans le film, et donc c'est pour ça que je trouve qu'il est un peu plus frustrant et compliqué à suivre, alors que Reservoir Dogs, on sait qui est à peu près qui. Et on a l'identité des personnages.
Bah, en fait, ce qu'il va faire, Quentin Tarantino avec ce film, c'est qu'il va faire quelque chose à plusieurs reprises. C'est, du coup, on va être dans le présent. Donc, du coup, comment le braquage a raté. Et après, on va avoir une présentation avec, du coup, un fondu noir et blanc sur les noms des personnages. Donc, par exemple, on va prendre comme exemple, on a en fait des codes couleurs. Donc, on a Monsieur White, Monsieur Pink, Monsieur Brown. Et du coup, chaque personnage, on va voir en fait la rencontre avec la personne qui a organisé.
L'instigateur
du casse. Et du coup, en fait, c'est très facile à comprendre. Par exemple, on va avoir Ava Kettel qui va être Monsieur White, et on va comprendre comment il en est arrivé là, et ainsi de suite avec les autres.
Oui, et en parlant de code couleur, à noter que la Casa de Papel n'a rien inventé. Hein. C'est pas eux qui ont inventé les noms de gangsters. Tarantino l'a fait, et d'autres l'ont fait avant lui aussi.
Et on n'est pas sur le même niveau aussi.
Tout doux, tu vas en fâcher certains. Moi, mais certains.
On en parlera sûrement dans une émission spéciale série, pourquoi pas. Un hors-série spéciale série, on pourrait le faire. Parce qu'il y a des très bonnes musiques, par contre, dans la Casa de Papel, et ça, c'est indéniable. Mis à part la reprise, et on ne passera pas la reprise de Maître Gims, mais sinon, il y a des très très bonnes musiques dans cette série. Donc, Reservoir Dogs, très bonne découverte, moi, je trouve, par rapport à certains films.
Ouais, bon. Moi, j'ai pas trop apprécié, mais après... Oui, au moins le supplice était vite terminé.
Oh le supplice.
Non, je rigole. Non, j'ai pas vraiment accroché. Moi, je l'avais vu il y a longtemps. Je me suis dit, je vais le re-regarder parce que j'avais pas un très bon souvenir. Et je pensais que ça irait mieux, mais non, toujours pas une très bonne expérience pour moi. Après, voilà, les goûts et les couleurs.
Après, qu'on aime ou on n'aime pas, ça reste un film à voir si on veut s'intéresser un peu à la filmographie de Quentin Tarantino, juste parce que déjà, Dune, c'est son premier film. Et en fait, c'est assez incroyable la qualité du... Bah, pour moi, personnellement, par rapport à Jade, j'adore ce film. Et du coup, par rapport à la qualité du film, le peu de budget qu'il a eu pour son premier film.
Après, finalement, je suis assez surprise, Marvin, parce que tu disais que tu avais du mal avec les dialogues qui tirent en longueur, et finalement, c'est que ça.
Ouais,
c'est vrai.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ce film... comme tout bon huis clos, hein, effectivement.
Et comme tout bon Tarantino.
Alors si, il y a une scène que j'aime un peu moins, donc sans spoiler, cette fois-ci, c'est quand on est dans la voiture avec Tim Ross et Harvey Keitel, et les deux, ceux qui engagent du coup pour les truands, donc le père et le fils, et ça va être une scène, je crois, alors je sais plus de quoi il parle, mais c'est assez long quand même, comme scène, je crois franchement 5-6 minutes facile.
Oui, bah, y en a beaucoup des scènes de Tarantino comme ça, mais...
Oui.
Mais par contre, à contrario, il y a une scène qui est très dynamique dans le film.
Le monologue. De Tim Ross.
Donc on va pas forcément en parler parce que là, c'est un vrai spoil par contre par rapport au film. Mais le monologue de Tim Ross est une scène très dynamique, très bien réalisée.
On va avoir une espèce de une steadicam qui va en fait le suivre autour de lui pendant qu'il va faire son monologue. Et en fait, on va embarquer avec la caméra et ça va être un peu comme si on est le spectateur qui va tourner autour de lui.
Moi, ça me fait l'effet d'une pièce de théâtre, limite, comme si on était en train de voir un comédien faire un monologue sur scène, la façon dont c'était éclairé, dont c'était tourné et tout.
Bah, de toute façon, c'était comme si l'acteur, en fait, il répétait son texte, enfin, autant bien l'acteur et que le personnage dans le film, en fait, il répète son texte. Et on a vraiment l'impression d'être à côté de lui en mode spectateur, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est très très bien réalisé, cette scène est assez impressionnante au niveau du montage et de l'effet cinématographique que fait la caméra et que fait le travelling tournant autour de lui. Du coup, des choses à rajouter sur Reservoir Dogs?
Pas forcément.
Une belle découverte.
Bah, c'est un bon point de départ pour la filmographie de Tarantino, qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
Bah, ça tombe bien, c'est son premier film. Et d'ailleurs, en parlant de premier film, on a eu le débat la semaine dernière avec Star Wars. Est-ce que vous pensez que la filmographie de Tarantino se regarde dans la chronologie de la sortie ou pas spécialement?
Bah, en fait, comme ils sont pas liés par rapport à Star Wars...
Il fait des choses tellement différentes que... Enfin, moi, j'ai pas vu tout Tarantino. J'en ai vu beaucoup, mais pas tous. Il y en a, je pense que je ne les regarderai pas. Donc, j'ai envie de dire, c'est... Encore une fois, les goûts et les couleurs, selon les préférences de chacun. Je dirais pas qu'il faut peut-être tous les regarder dans l'ordre ou quoi, mais...
Seulement Kill Bill 1 et Kill Bill 2.
Ça, ouais, on a pas ça, le choix.
Non,
sinon,
soit tu peux commencer par le 2, c'est une expérience différente.
Ouais.
Ouais. Ouais, c'est un peu embêtant quand même de commencer par le 2. C'est...
Mais après, en soi, comme tous les films de Tarantino sont pas liés par un même... Enfin...
Il n'y a pas de Tarantino Universe.
Que, voilà, c'est la théorie qui veut ça, mais en soi, voilà, on peut très bien regarder chaque film indépendamment. Il y aura aucun
incident. Après, regarde, il y avait les frères Vega, hein. Moi, tu m'as appris tout à l'heure qu'il y avait le grand et le petit frère.
C'est vrai.
Oui. Et donc, on parlait, Jade, tu as très bien dit tout à l'heure qu'il y avait certainement des films que tu ne verrais jamais. Et je pense que le film dont est sortie la première musique, donc qu'on va diffuser tout de suite, en fait partie. On en reparle tout de suite. Elle s'appelle Down in Mexico. C'est la bande originale de Boulevard de la Mort.
I'll be back.
And you wanna get I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Don't know why, and till this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Et donc c'était la musique de Kill Bill qui s'appelle Bang Bang. C'est une reprise aussi, hein, c'est pas une originale. Mais pour Kill Bill, il y a beaucoup de reprises, comme pour Pulp Fiction, il y a beaucoup de musiques qui ont été réutilisées pour la BO du film. Kill Bill, qui est le seul film de Tarantino qui est en deux parties, deux films, le 1 et le 2. C'est un film d'aventure, de vengeance, de girl power aussi, on en parlait tout à l'heure avec Jackie Brown. C'est un film qui est très intéressant, qui est très gore, qui fait très 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 Tarantino. Et il est en deux parties parce que l'histoire se suit, en fait, le 1 et le 2, vraiment, vous pouvez enchaîner les deux, si vous avez 5-6 heures de film à regarder en un seul trait, mais les deux s'enchaînent. Pour moi, c'est un très bon film, une très belle aventure. Et puis voilà, c'est un vrai girl power. Je crois que vous deux, vous ne l'avez pas vu.
Ouais, c'est vrai qu'il n'y a aucun de nous deux qui va pouvoir prendre le relais là pour toi. On te fait confiance.
Et bah, dans tous les cas, c'est une émission un peu totalitaire. Hein. Là, je prends le pouvoir et je dis que Kill Bill était un bon film et que j'ai bien apprécié. Et donc, comme je suis tout seul, bah, on ne va pas beaucoup plus s'épancher sur le film parce que les autres ne l'ont pas vu. Hein. C'est traître, ils n'ont même pas préparé l'émission. Et on va pouvoir...
Il nous a jetés sous les roues du bus.
je suis le seul. J'ai dit que j'étais autoritaire. Et on va enchaîner tout de suite avec une musique encore qui a été reprise pour le film, pour le film Inglourious Basterds. Donc là, il y a encore un décalage parce que la musique, c'est David Bowie, c'est les années 80. Inglourious Basterds, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, on va enchaîner deux disques. Mais la première, c'est David Bowie pour Inglourious Basterds.
Stare for a thought. thousand years colder than the moon. It's been so long. Feel my blood enraged. It's just the fear of losing you. Don't you know my name? Well, you've been so long. And I've been putting out fire with gasoline.
Du coup, c'était une chanson que vous avez pu entendre dans Inglourious Basterds, dont on ne va pas énormément parler aujourd'hui, puisque finalement, ce n'est pas forcément le film qui nous a marqué le plus tous les trois. En revanche, on va... Pardon ?
Ouais, totalement, ce n'est pas un film qui nous a spécialement marqué. Pourtant, film
moi, je l'aime beaucoup, mais finalement, je n'ai pas tant de choses à dire dessus.
À part, on peut souligner quand même la prestation de, en tant d'acteur que Christoph Waltz.
Qui comme
fait,
d'habitude.
Ouais, le colonel allemand qui le fait super bien. Surtout la scène d'ouverture. Pour ceux qui l'ont vu, vous comprenez de quoi on parle. C'est une scène vraiment avec une intense tension.
Mais on va enchaîner sur un autre film. Et finalement, le point commun de ces deux films, c'est que dedans, Quentin Tarantino, il réécrit l'histoire. Donc il a son petit scénario, il sait comment les faits se sont passés, donc on parle de l'Allemagne nazie et un peu plus tard des années hippies de Los Angeles. Et finalement, ces deux films où il décide de prendre sa petite plume et de réécrire tout comme il veut. Donc on va lancer une des musiques qui personnellement m'a marqué, c'est moi qui l'ai choisie, j'en suis pas peu fière, qui m'a marqué dans Once Upon a Time in Hollywood, et on vous laisse profiter. Mmh.
eyes gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was any late. Oh, California dreaming on such a winter's day. Stopped along the way. Well, I got down on my bended knees, and I began to pray. You know the preacher digs a call. He knows I'm gonna stay. Yes, he knows, 'cause I told him so. Such a winter's day. The sky is gray. Oh, I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was bitter, if I wasn't a lady. Quiero gozar en California porque yo me siento tan bien, y por eso yo te quiero, porque tú me tratas bien en California. Mira, no seas tan mala, nena, no me trates así, que yo me quiero morir, muchachita, por tu amor nada más. Oye, no me digas que no, porque yo... Oye, mulata, mira, baby, California Dream.
Vous connaissez sûrement tous California Dreaming de The Mamas and the Papas, et là c'était par José Feliciano. Alors, moi, j'ai adoré ce film. C'était en fait une façon pour moi de vivre une époque que j'avais jamais vue en vrai. Je suis née dans les années 90 et j'ai été transportée. J'en parlais tout à l'heure, c'est quelque chose que moi je recherche quand je regarde un film. J'ai adoré l'univers, les décors, les musiques, tout était vraiment taillé sur mesure. Et en fait, on en parlait tout à l'heure, c'est ce que Tarantino aime faire, recréer son enfance, recréer ce qui l'a bercé, les choses qui l'ont marqué, les époques, les films, les musiques. Et moi, c'est vraiment... en fait, cette impression d'être transportée dans une autre époque sans bouger mes fesses du siège de cinéma, j'ai adoré. Et cette chanson en particulier, c'est un moment où Brad Pitt conduit dans Los Angeles. Et il y a des néons, il y a des petits fades dans l'image. Et c'est vraiment une belle scène, en fait, un moment plus calme après la scène précédente qui se déroule, Marvin pourra en parler parce que je crois qu'elle l'a particulièrement ennuyée, qui se déroule avec des hippies. Et ouais, c'est vraiment la scène qui m'a marquée dans le film. Alors, pas forcément la plus marquante, si vous l'avez vue, vous en conviendrez, mais la scène pour moi que s'il devait en rester une, ce serait celle-là.
J'ai l'impression que Marvin a souvent été ennuyé dans les films de Tarantino quand même.
Bah, en fait, il y a toujours un moment dans le film où je trouve que c'est un peu ennuyeux. C'est propre à chacun, mais là en l'occurrence c'est une scène qui se passe dans une espèce de ferme, enfin une secte, et en fait les dialogues sont hyper longs, et en fait ça en déboule à rien du tout. Derrière, en fait, il y a pas un fil conducteur, parce que derrière il y a rien.
Vous aurez remarqué que le thème de cette semaine, c'est pas Marvin qui l'a choisi, hein, on est d'accord.
Du tout.
C'est plutôt Jade qui nous l'a plus ou moins imposé.
C'est faux. Par contre, moi, c'est vrai que moi j'aime vraiment bien En fait, j'aime bien tous les univers qu'il crée. On en parlait, il s'est essayé à plein de genres différents. Et pour moi, à chaque fois, même si c'est pas forcément... Même si j'aime pas tous ses films, il faut reconnaître, il faut pas être... j'ai plus les mots, mais un peu mauvais joueur. Et il faut reconnaître qu'à chaque fois, il tisse quelque chose de très soigné, de très complet dans tout ce qu'il fait.
Et puis, il va chercher des périodes et des thèmes qui sont quand même assez différents, même si on a les trucs qui reviennent, la voiture, les pieds, les bains de sang. C'est quand même souvent
trois éléments indispensables à Once Upon a Time in Hollywood.
Ce combo.
Mais c'est quand même souvent des périodes et des intrigues qui sont assez différentes, quoi, je trouve, dans les films que j'ai pu voir pour l'instant.
Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est en fait donc le personnage de DiCaprio, donc qui interprète en fait un acteur qui est en fait un peu en une carrière en dents de scie. Donc, il a eu une première période où en fait il était très bon, et en fait après plus personne veut l'engager dans le film. Et il se demande en fait s'il n'est pas dépassé par les événements, si en fait il a fait son temps. Et ça, j'ai l'impression de voir un peu du Tarantino dans le sens où en fait ces films. Pour moi, même si du coup on a une certaine nostalgie dans tous ces films, ils n'ont pas été. Comment dire, ils ne sont pas sortis à la bonne époque. Parce
Tarantino,
vraiment...
c'est vraiment le cliché du mec qui n'est pas né à la bonne période.
Du tout. Voilà,
mais au lieu de s'en contenter, il refait vivre la période qui lui convient. C'est beau.
Et donc, ouais. Moi, j'ai l'impression de voir un miroir de Tarantino dans le personnage de DiCaprio, en fait, qui se demande si voilà, il n'est pas dépassé par tout ça, s'il ne devrait pas mettre fin à sa carrière. Et c'est d'ailleurs ce que dit Tarantino plusieurs fois. Il a émis ça lors de ses. De ses interviews avec les journalistes où il disait qu'en fait, au bout de 10 films, il allait arrêter. Donc, est-ce qu'il va arrêter ou est-ce qu'il va pas arrêter ? On saura prochainement.
Est-ce qu'il va arrêter ou est-ce qu'il va pas arrêter ? On a quand même dans les cartons un Kill Bill 3 qui devrait arriver. Donc, peut-être que 10 films, ce sera plus 11 ou 12, mais...
Et il y a aussi... alors ça, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Normalement, mais ça fait déjà plusieurs années, il devrait réaliser un Star Trek. Donc, un Star Trek avec les dialogues de Tarantino, wow. Ça peut être spécial. Ça peut être super spécial.
Et puis, avec des pieds aussi, ça peut être spécial.
Il y aura
des pieds de Klingon.
Comment on met des voitures dans Star Trek ?
Des vaisseaux.
On mettra des vaisseaux.
Ouais, mais c'est une entorse hein, quand même. Moi, je trouve que les puristes vont hurler. Si vous êtes puriste de Tarantino, dites-nous si un vaisseau, ça vous convient à la place d'une voiture.
Mais en attendant, revenons à notre film une dernière seconde. Kéliane, est-ce que tu as envie de le voir ? Est-ce qu'on t'a donné envie ?
Non, sérieusement, c'est un film que j'ai eu envie de voir, mais que j'ai pas eu vraiment l'occasion de voir, plus que l'envie ou non. Mais oui, vous me donnez envie de le regarder. Et encore plus maintenant, il faut que... Soit que je fasse le pirate, soit que je le trouve assez légalement.
Non, on ne parlera pas de piraterie ici.
Mais on ne parlera pas de piraterie ici, parce que si on parle de cinéma aussi, c'est parce qu'on aime le cinéma. Et donc, si on aime le cinéma, on le soutient et donc on ne le pirate pas.
On est bien d'accord. Et après, je suis aussi d'avis que les films de Tarantino, c'est tellement une expérience que je
trouve les voir sur grand écran.
Qu'il faut les voir au cinéma. Et je dis ça aussi parce que moi, je fais partie de ces personnes-là qui regardent un film avec le téléphone à la main. J'essaye de me défaire de ce toc, mais voir un film au cinéma qui dure 2h30, c'est plus facile d'accrocher que quand on est sur son canapé.
Ouais, c'est clair.
Au cinéma, on n'a pas le choix. On ne peut pas être avec notre téléphone, sinon les voisins ne vont pas être contents.
Non, sinon tu vas aux toilettes.
Voilà.
Et donc tu ne suis plus l'intrigue, donc forcément si tu as envie, tu te dis, forcément quand tu es au cinéma que tu te dis faut que tu ailles aux toilettes ou tu veux regarder ton téléphone, tu te dis c'est à ce moment-là qu'il va se passer la meilleure scène du film.
Ça bascule en 30 secondes.
Ouais, c'est souvent ça les effusions de sang, hein. Ça part très très vite.
Et on peut souligner aussi la très belle performance d'acteur de Brad Pitt, donc en second rôle, qui a des moments qui va totalement éclipser DiCaprio, c'est pas facile. Margot Robbie qui justement interprète Sharon Tate, qui est le seul personnage principal qui va être réel dans l'histoire.
Ouais, mais il y a eu des Oscars d'ailleurs pour ce film, il me semble, non ?
Brad Pitt, second rôle. Brad Pitt, second rôle, et après, je suis pas sûr. Peut-être les décors.
Non, ils ont eu des décors. Ils ont si.
C'était 1917 les décors.
Non.
Si.
On vérifiera ça.
Nous ne nous battrons pas et nous irons sur Wikipédia comme tout le monde. Et Wikipédia nous donnera les.
Je dégaine Google.
Pendant que Jade dégaine Google, je pense qu'on va essayer de rendre l'antenne parce que Flo nous pousse derrière. On a été un peu plus long que d'habitude. Je veux juste vous annoncer une petite nouveauté cette semaine. C'est que si les musiques, vous avez envie de les retrouver, vous n'avez pas pu noter tous les noms, vous pouvez retrouver ça sur la page YouTube de RKS. Vous avez la playlist de toutes les musiques qu'on a diffusées et avec des inédits, des petits bonus. On a ça a été, on a été un peu long parce que ça a été compliqué de battre sur les 10 films de Tarantino en une heure. Donc on va pas trop s'attarder. Est-ce que Jade, tu as la réponse? Je te vois en train
Je vais finir sur une petite victoire. C'est bien Once Upon a Time in Hollywood qui a eu meilleur décor aux Oscars en 2020.
Alors du coup, 1917, ça devait être la photographie et le mixage.
Ça, c'est pas impossible parce que c'était un très
beau film. Il est quand même un peu de mauvaise foi. Hein. Il veut pas admettre qu'il a perdu.
C'est parce qu'il a raté son twist tout à l'heure.
Oui, c'est vrai qu'il a raté son twist. On s'entraînera au twist cette semaine pour vous retrouver, on espère, la semaine prochaine ou très bientôt. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur la page d'Arcas, suivre toutes les infos, de nous retrouver. C'était une très très bonne heure et quart en votre compagnie.
Et pourtant, il y avait pas mal de choses à dire. On a fait un condensé du mieux qu'on a pu. Désolé si on a un peu mis de côté votre film préféré, mais c'est vrai qu'on a plutôt choisi les films qui nous avaient marqué côté musique, plus qu'on va dire côté scénario ou côté acteur.
Et puis si toutefois on se fait incendier sur les réseaux, on réfléchira à un deuxième épisode en ayant travaillé les autres films et en les ayant vus et pour pouvoir en parler un peu plus. Ben voilà, on va pouvoir conclure là-dessus. Donc on espère se retrouver très bientôt parce que moi personnellement j'ai vraiment apprécié ce deuxième épisode. Vous pouvez retrouver le premier en podcast sur le site de RKS, rks.fr, radio-rks.fr. Et donc je vous le disais, la nouveauté de cette semaine, les playlists de Ciné7 à trouver sur la page YouTube de RKS. On se dit à bientôt les amis.
À très bientôt.
Salut à tous.
On ne laisse pas bébé dans un coin.
88 miles à l'heure!
I'll be back.